Chapitre 7, la belle vue du fou. Ces forêts partout, au sud et à l'ouest de Mortefontaine. Les bois de la Ferté-Macé rejoignent de ce côté les bois d'Andenne au quartier dit la belle vue du fou, où se croisent trois chemins vicinaux, tellement piétinés par les bêtes fauves, surtout les sangliers, que j'y ai vu souvent au matin les traces des chevaux et des voitures complètement effacées par les pas du gibier. Au temps de la moisson, les paysans du voisinage passent la nuit dans leurs champs avec des tambours et des chaudrons pour éloigner les troupes de joyeux et effrayants marcassins, et au loin il y a un garde-chasse qui veille non point sur les récoltes mais sur les ravageurs. La loi protège le sanglier. Une fois passée l'étoile du fou, le terrain s'abat brusquement d'un côté, et remonte de l'autre pour atteindre un plateau sablonneux mais boisé qui domine 10 lieues de pays. Au-dessus encore de ce plateau, il y a une roche entourée de hêtres admirables qui contraste par leur éternelle fraîcheur avec l'aridité de la lande environnante. Car la forêt n'est ici qu'une lande où essaie de croître un misérable taillis de bouleaux. Au sommet de la roche, il y a une fontaine où je n'ai jamais vu d'eau, et c'est dommage car cette eau, dit-on, guérit une foule de maladies. La fontaine est gardée par une petite niche creusée dans la pierre et ornée d'une image de Notre-Dame du Fou en faïence peinte. Le tout est surmonté d'une plateforme de 20 pieds carrés qui dépasse les plus hautes cimes des hêtres. C'est spécialement ici la belle vue du fou à laquelle tout le quartier doit son nom. De la belle vue, on aperçoit plusieurs villes, 20 clochers de bourgs pour le moins, et d'innombrables villages. On voit 6 rivières, 3 étangs et 3 forêts. La Normandie ne contient pas de paysages plus variés ni plus larges. Paul Labre venait ici presque tous les jours, non point pour admirer le paysage, mais pour savoir où diriger sa course. Isolde Champmas courait à cheval dans toutes les directions. À la belle vue du fou, Paul Labre était sûr d'apercevoir, après quelques minutes d'attente dans les sentiers grimpeurs de la montagne ou sur les routes sinueuses de la plaine, son voile vert flottant au gré de sa course et la robe fleur de pêcher de son charmant cheval. Quand il l'avait aperçu, il choisissait son chemin, calculant le temps et la distance, il savait la retrouver, fallut-il faire plusieurs lieues sous le soleil, et il savait choisir pour la rencontrer l'endroit ombreux et bien couvert, d'où, sans être deviné, il pouvait l'adorer un instant au passage. « Pauvre joie, pensera-t-on, Paul était ainsi fait. Il n'avait point vécu. » Ces 3 ans écoulés n'avaient pas changé en lui le jeune homme solitaire et timide à l'excès. Son passé de misère pesait sur lui dans la prospérité. Nous ne parlons même pas de l'idée fixe qui le tenait, le châtiment des assassins de son frère. Paul croyait à cette idée fixe et certes il eût donné de son sang pour accomplir le serment qu'il avait fait. Mais nous voulons avant tout la vérité. L'énergie de Paul Labre était d'espèce particulière. Il eut tout osé, tout, pourvu que le danger vînt à lui. Chacun de vous connaît de ces hommes, braves jusqu'à la témérité, mais à qui manque le besoin d'agir. Ils ont la plus poétique moitié de la vaillance, le mépris absolu de la mort, mais ils s'endorment parfois sur le chemin qui mène à la bataille. L'idée fixe de Paul, la vraie, c'était son amour pour Isolde Champmas. Amour de tête et de poète, passion fougueuse et froide à la fois, adoration romanesque qui vivait surtout d'obstacles. C'était toujours ce rêve d'adolescent, contemplant, par la croisée de sa mansarde, le bonheur impossible. Paul Labre n'avait pas vieilli. Chose singulière, il aimait tant son rêve qu'il éprouvait une sorte de frayeur à l'idée d'échanger quelques paroles avec Isolde. Il l'adorait telle qu'il la voyait de loin, telle qu'il l'avait faite, pourrait-on dire. Et depuis quelque temps, depuis très peu de temps, il éprouvait un remords à l'adorer ainsi. L'enfant qui restait à la maison, la pauvre petite blondette, grandissait à son insu dans son affection. Il lui reconnaissait des droits, il plaidait pour elle contre elle-même, comme tous les fous, car cette belle Isolde était pour lui une folie. Il avait ses heures lucides. À ses heures lucides, Paul était à la fois un esprit subtil et un cœur d'or. Bienfait oblige, il s'était engagé beaucoup envers cet enfant dont il était désormais toute la famille. Loin de se dissimuler les obligations contractées, il se les exagérait avec l'ardente générosité de sa nature. Sa paresse n'était que pour l'action, ou plutôt sa paresse était tout entière dans ce mal d'amour où il se complaisait obstinément. Il aurait donné une part de sa vie pour aimer Blondette comme il aimait Isole. Que de bonheur alors, car il voyait clairement et bien le cher travail qui s'opérait chez l'enfant. Rien n'était perdu en elle, tout y vivait à l'état de sommeil. Elle l'aimait, il le savait. Que pourrait le choc d'une grande joie sur cette sensitive endormie? Quand Paul Labre avait quitté Blondette ce matin, il éprouvait ce remords à un degré plus haut que l'habitude. Cette gentille intelligence qui ne demandait qu'à naître et à fleurir l'avait frappé aujourd'hui très vivement. Il était triste. Il se reprochait de ne point aider à cet admirable travail de guérison, bien plus de l'entraver peut-être, car il avait nettement conscience de son pouvoir sur l'enfant. Il traversa lentement les lentes labourables qui le séparaient de la lisière de la forêt. L'air était lourd, le soleil chaud. Et 10 fois il fut sur le point de retourner sur ses pas. Quelque chose le rappelait en arrière et disait au fond de son cœur « C'est ici une heure solennelle, tu as un devoir à accomplir. » Mais il allait. Les arbres de la forêt épandirent bientôt leur ombre sur sa tête. Il pressa le pas. Le souci le suivit, plus mordant et plus cruel. Pourquoi avait-il écouté les suggestions de Thérèse Soulas? Ses craintes au sujet de malfaiteurs mystérieux, intéressés à faire disparaître Blondette, n'étaient-elles pas pure fantasmagorie? Il fallait chercher les parents de l'enfant au lieu de la cacher. À défaut du bonheur qu'on ne pouvait lui donner, il fallait au moins lui rendre sa famille. Les remords vont en troupe. Paul vint à songer à son frère. À cet égard, il avait fait de son mieux. Était-ce assez? Était-ce ainsi et froidement qu'il avait compris, à la première heure, cette grande tâche de la vengeance? Il avait cherché, certes, il avait dépensé de l'argent, des efforts et du temps, mais il s'était reposé sur autrui, et les assassins de son frère restaient encore impunis après 3 années. Oh, cet amour, cette extase, cette démence! Isole sa pensée de tous les instants, son bonheur et son malheur. Il y avait une demi-lieue environ de Mortefontaine au carrefour du Chou. Quand Paul arriva à l'Étoile, le ciel tout à l'heure si bleu commençait à se couvrir de nuages légers, mais laiteux et confus, de ce nuage qui précède comme une avant-garde les grands amas de vapeurs électrisées. Paul se dit « À quoi bon monter? Je ne monterai pas. » Et il monta. Parvenu au sommet de la belle vue, au lieu de jeter, comme il le faisait chaque jour, tout de suite et avidement, un regard circulaire à l'horizon, il s'assit sur la pierre, déposa son fusil contre le tronc d'un arbre et mit sa tête entre ses mains. « Je ne regarderai pas, » pensa-t-il, essayant une dernière fois sa puérile révolte. Mais il regarda. Et au milieu des 1000 détails du paysage, parmi tant de collines et tant de plaines, tant de bois et tant de prairies, son œil tomba du premier coup sur une bruyère rocheuse qui ressortait en rose auprès de ce noir paquet de verdure, le paradis d'Antoigny. Sur cette bruyère, il y avait un objet mouvant que ni vous ni moi n'aurions distingué. Était-ce une fleur balancée à la brise, un oiseau, une femme? Paul appuya ses 2 mains contre son cœur et sa poitrine rendit un gémissement. C'était elle, c'était Isole de Champmasse avec son voile vert que le vent déployait en se jouant. Paul se mit sur ses pieds comme si une main plus forte que sa volonté l'eût soulevé. Et puis il se rassit, disant « Non, je n'irai pas, je ne veux pas y aller ». Et en effet, il resta immobile. Mais savez-vous pourquoi? C'est que la tête du joli cheval Fleur de Pêcher n'était point tournée vers la gorge d'Antoigny, c'est qu'Isole se dirigeait du côté de la belle vue du Chou. Paul n'allait pas à elle parce qu'elle venait à lui. Elle était bien loin encore, certes, et nul ne pouvait deviner quel capricieux détour la belle fille pourrait prendre, mais elle venait. Paul plaça de nouveau sa tête entre ses mains. Malgré lui, sa mémoire parlait. Ses souvenirs qu'il n'évoquait point passaient en foule devant ses yeux fermés. Il n'y avait dans sa vie, qui lui semblait si longue parce qu'elle était si triste, il n'y avait, depuis la mort de sa mère, qu'un jour souriant une heure au moins, une bonne heure chère, qui payait presque les années de découragement. C'est quand il avait vu se rouvrir les paupières de la pauvre petite blondette après l'avoir crue morte. Bienheureuse idée du drap de lit chauffé qui enveloppa les membres frêles et tout glacés de l'enfant, comme ses yeux bleus étaient doux et beaux. Mais l'heure qui suivit fut un deuil terrible. Paul apprit la mort de son frère assassiné à deux pas de lui dans cette chambre numéro 9. Ces bruits sinistres qui avaient troublé son recueillement pendant qu'il écrivait à son frère, si près de mourir, cette lettre où il disait « Je meurs », ces bruits étranges, ce choc sourd qui avait détaché un fragment de pierre à la corniche de la tour, lequel fragment avait brisé un châssis en tombant dans le jardin de la préfecture, ces bruits, il croyait les entendre encore. Paul frissonnait, et la sueur froide coulait entre ses doigts crispés. Paul savait-il où était le corps de son frère? Il écarta ses mains de son visage comme on chasse un fantôme. Il interrogea de nouveau l'horizon. Isole galopait dans la plaine. Il essaya de penser à Isole et de baigner son angoisse dans une extase d'amour. Mais aujourd'hui, la pensée d'Isole lui serra le cœur. Cette gracieuse forme qui fuyait là-bas dans la foudroyante lumière du midi était comme une menace. Isole, cependant, gagnait la lisière des coupes. Une dernière fois, les plis du voile vert éclatèrent au soleil puis disparurent sous la feuillée. Paul sentit une larme qui brûlait sa paupière. « Je n'irai pas, je n'irai plus, » murmura-t-il, « plus jamais. » Le temps s'écoulait, et Paul, qui voulait chasser loin de lui la pensée d'Isole, la voyait sans cesse et ne voyait qu'elle. Il se disait « Elle est ici, elle est là. » Elle traverse cette coulée où je l'ai contemplée si souvent, cachée derrière le grand chêne. Elle entre chez le pauvre bûcheron qui s'agenouille sur le pas de sa porte quand elle s'éloigne pour la bénir. Que m'importe tout cela? Je ne veux plus l'aimer. Ah, je l'aime. Jamais je ne l'ai tant aimé. J'aurais mieux fait de mourir. Blondette serait un ange au ciel. Au moment où le combat qui se livrait en lui devenait intolérable comme un supplice, il tourna la tête parce qu'un bruit de pas se faisait sous les hêtres. Il ne vit rien, et cependant les feuilles bruissaient. Il saisit son fusil d'instinct et se leva pour regarder mieux. L'horizon s'assombrissait vers l'ouest. De grands nuages d'un gris de plomb montaient, bordés de franges argentées. Il ne faisait pas un souffle d'air. Au moment où Paul cherchait en vain sous les arbres l'être humain ou l'animal qui avait remué les feuilles, son attention fut tout à coup détournée par le roulement d'une voiture qui tournait l'angle de la route de Mortefontaine. C'était la calèche de monsieur de Champmas. Comme Paul était debout, le général l'aperçut en traversant le carrefour et le salua selon sa coutume. Paul rougit, comme si on l'eût surpris comme étant un acte coupable, et se découvrit avec un respect embarrassé. Ce fut tout. En se retournant, il crut apercevoir au plus épais du fourré de hêtres, là où les feuilles bruissaient naguère, un homme de forte taille et de méchante mine. Cet homme venait à lui, à la main un fusil de chasse dont le canon, touché par la lumière, jeta une lueur. Les braconniers ne sont pas rares dans le pays. Paul aurait à peine remarqué celui-ci, sans le soin extrême qu'il semblait prendre à dissimuler sa marche. Du reste, ce fut rapide comme une vision. Le second regard de Paul ne trouva plus sous les hêtres que l'ombre et la solitude. Il appela, personne ne répondit. Mais l'instant d'après, le galop d'un cheval sonna sur le gravier de la route qui descendait au bas-pays. Le cœur de Paul se prit à battre, et l'homme au fusil, vision ou réalité, fut oublié profondément. À la place même où, tout à l'heure, la calèche du général venait de passer, Isole de Champmas, échevelée par le vent et la course, se montra splendidement éclairée par le dernier rayon du soleil qui allait se noyer sous les nuages. Il y avait en elle une animation extraordinaire. Ses yeux brillaient, sa joue, sous les reflets de son voile, montrait d'étranges et d'ardentes pâleurs, ses cheveux magnifiques ondoyés, caressés amoureusement par la lumière. Elle était belle jusqu'au miracle. Paul se retira derrière l'angle de la roche, tout haletant d'admiration. Isole arrêta son cheval, court, au milieu de l'étoile. Son regard franc et résolu interrogea la petite plateforme. Paul, tremblant plus qu'un enfant, se demanda, m'a-t-elle donc aperçu? Il avait peur, mais peur au point de chercher déjà une issue par où fuir. Il se trompait, Isolde Champmas ne l'avait point vu. Elle cherchait quelqu'un sur la petite plateforme, évidemment, car ses sourcils se froncèrent avec dépit. Un instant, elle resta indécise. Et puis sa cravache mignonne se leva comme si elle allait reprendre sa course. Mais se ravisant brusquement, elle sauta à terre, et se tournant vers la plateforme, elle dit à haute voix « N'êtes-vous point là, monsieur le baron d'Arcis ?» Paul, plus stupéfait que si la pierre elle-même eût parlé, ne trouva point de mots pour répondre. Seulement, éperonné par la conscience du côté ridicule de sa situation, et c'est le côté sensible pour ceux qui sont timides et qui aiment, il rassembla son courage et fit un pas en avant. D'un geste automatique, sa main souleva son chapeau. Isolde sourit et le salua d'un signe de tête gracieux. « Restez, dit-elle, je vais aller vous trouver. J'ai besoin de causer avec vous. » Paul resta, en effet, et vous eussiez dit qu'il était changé en statue.